Limite.
Quelle est ta définition du réel?
C'est comme les maillons d'une chaîne.
Le point culminant de votre civilisation.
Préparez très fort, protéger ce qu'on aime.
Bravo, grand bienfaiteur de l'humanité.
On trouve en soi une force que l'on ne soupçonnait pas.
On ne peut pas résoudre un problème.
Exponential growth will take us to the limit.
Limite.
Very soon.
Avec le même mode de pensée que celui qui a généré le problème.
Aujourd'hui avec nous, Bruno Coleman, docteur et professeur d'économie, membre de l'Académie Royale de Belgique. 88 livres à son actif, il nous fait le plaisir de revenir sur notre chaîne pour nous partager son point de vue sur l'explosion des différents programmes d'IA qui sont depuis maintenant un peu plus d'un an disponibles pour les citoyens et les entreprises. Il considère, au vu de leur rapide évolution, qu'on est en train de vivre une nouvelle révolution, plus conséquente encore que la révolution industrielle de 1850.
Limite.
Quelle est ta définition du réel?
Salut Bruno, comment tu vas?
Bien, on s'est plus vu depuis le mois de septembre, je pense.
Exactement, avec une belle vidéo là qui a bien tourné, je suis très ravi, très content. Ouais. Justement sur ta fameuse, ton coming out, entre guillemets, écologique, hein, puisque tu as un homme qui a travaillé dans les banques, oulala.
Mais l'interview a donné lieu à un livre qui est sorti il y a quelques mois maintenant.
Une brûlante inquiétude.
Brûlante inquiétude, oui. J'ai construit le livre autour du titre.
Ah bah.
En fait, c'était les articles qui avaient suscité la rencontre, et puis le livre s'est construit avec les mois et les semaines qui sont passées.
Et bah, on est ravis, et peut-être que ça va nous amener sur un autre livre, parce qu'aujourd'hui, il va y avoir une grosse thématique. Mm-hmm. Mais avant ça, bienvenue à vous sur la chaîne Limite, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, nous allons parler de choses importantes en rapport avec la limite planétaire, les ressources, l'humanité, bien entendu. Et forcément, vous savez que pour nous soutenir, la technique elle est la suivante. Vous abonnez, vous likez, vous commentez. Surtout que le commentaire, ça marche très très bien. Hein. Donc n'hésitez pas à commenter tout au long de cette vidéo. Ça nous permettra bien sûr de nous pousser dans les algorithmes. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Et justement, c'est la thématique. Les algorithmes qui aujourd'hui, on commence à oublier le terme algorithme. On parle plus d'IA, d'intelligence artificielle. T'as quand même pas mal écrit. D'ailleurs, on vous mettra ça en description. T'as donné des billets d'humeur autour de ton sentiment. On y est là aujourd'hui, Terminator, Skynet.
On est au début. Je pense qu'on est au début et que l'intelligence artificielle, ça existe depuis longtemps, mais aujourd'hui, elle devient accessible à tout le monde. Et dans une forme qui est assez primaire, assez primitive. Mais on voit chaque jour, des développements qui sont popularisés et qui montrent qu'on rentre dans une révolution que je qualifie d'industrielle, à mon avis, comparable à ce qu'on a vécu au 19e siècle. Alors bien sûr, les gens comparent l'intelligence artificielle à Internet, qui était une révolution en tant que telle, mais c'est plus profond que ça. Parce que ça veut dire que toute une série de capacités cognitives, d'expériences, d'intuitions, vont pouvoir être modélisées, et personne ne va en réchapper. Donc certains croient que leur âge, leur sens artistique, culturel, va pouvoir dépasser l'intelligence artificielle. Moi, je crois au contraire que, comme on est la somme de toute une série de ressentis, mais qu'on n'a pas tout ressenti, eh bien, les intelligences artificielles vont pouvoir maintenant restituer de la création. Je l'utilise déjà maintenant dans mes textes d'économie, qui sont des textes plutôt rigoureux, des textes d'analyse économique, et je me rends compte que je passe plus de temps à mieux faire grâce à l'intelligence artificielle qui me guide, m'interpelle dans mes textes, souligne les contradictions, exprime les sentiments qui peuvent ressortir d'un texte. Et donc, manifestement, c'est une révolution. Une révolution. Et nos sociétés ne sont pas du tout préparées à ça. Et malheureusement, parce que c'est un grand débat sociétal, ces intelligences artificielles ne sont pas encadrées. Heureusement, il y en aura plusieurs qui vont se concurrencer, mais elles sont surtout d'origine américaine. Ce qui veut dire que, comme pour les GAFA, d'ailleurs, le GAFA, le Microsoft, est un grand entrepreneur d'intelligence artificielle, eh bien, ce sont de nouveau des opérateurs étrangers qui vont, en fait, aspirer une partie des gains de productivité que nos économies vont créer.
Mais attends, justement, on va y aller étape par étape, parce que l'intelligence artificielle, pour ceux qui nous regardent et qui se demandent, tiens, de quoi il en retourne, bon, on parle un peu de ce cliché très science-fiction hollywoodien, avec une intelligence douée de conscience, qu'on atteindrait potentiellement, hein, selon les statistiques, on pourrait l'atteindre en 2050 avec la force de calcul et l'ordinateur quantique, ce qu'on appelle d'ailleurs, il me semble, la singularité, moment où on va réussir à la...
Ça, c'est l'exponentialité, oui.
Voilà. Mais là, on n'y est pas. On est sur des puissances de calcul qui vont très, très loin. Alors, Toi, ton expérience de travail, pour l'instant, c'est avec OpenAI, ChatGPT-4, oui. La version 4. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça se décline énormément. On parle d'IA générative. Mmh. Donc, ça se passe. Alors, moi, je vais parler un peu de mon domaine. Moi, mon domaine, c'est le son, oui. La musique, la radio. Et dans ce domaine de base, on avait besoin d'ingé son pour aller capter les différentes disparités dans le son, pour essayer d'avoir le meilleur spectre possible, pour avoir le meilleur rendu sur des baffles, etc. Là, aujourd'hui, tu prends ton fichier, toi et moi, par exemple, on peut être amené à discuter, et peut-être que la qualité sonore est mauvaise. Alors, au lieu d'avoir un être humain qui va travailler dessus minutieusement pendant plusieurs jours pour avoir le meilleur résultat, hop, il la glisse dans une machine, et ça y est, la machine calcule puissance, hop, et elle rend quelque chose qui empêche, en fait, qui nous évite de devoir nous encombrer d'énormément de matériel pour avoir le même résultat. Donc, est-ce qu'il y a une forme de dématérialisation là derrière ou, et en même temps, slash, est-ce qu'il y a une forme de retirer complètement le métier des gens, en fait ?
Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle est plutôt de nature déductive, c'est-à-dire qu'elle prend des sources multiples dans tous les domaines, elle les rassemble, trouve des similarités et donne des réponses. Donc, il n'y a pas de conscience propre à l'intelligence artificielle. Mais un jour, elle va être, comme on dit, heuristique, c'est-à-dire inductive. Elle va en fait résoudre des problèmes par elle-même sans copier des solutions qui ont déjà été formulées. Et ce jour-là, on va être dépassé parce que nous sommes la coquille humaine de nos expériences, même les plus intimes, les plus infimes, tandis qu'on va pouvoir résoudre des problèmes. Et le problème de nos sociétés, c'est que nos économies sont basées sur les services qui interviennent pour à peu près 70% du produit intérieur brut, c'est-à-dire de la richesse qui est créée chaque année.
Cite-nous des exemples de services pour les néophytes.
C'est les gens qui travaillent dans les banques, dans les assurances, tous les gens qui travaillent dans la transmission d'informations, dans la manipulation. Donc en fait, ce sont des gens qui travaillent devant un ordinateur et qui manipulent, enrichissent de l'information. Beaucoup de gens, d'ailleurs, ont une très faible valeur ajoutée personnelle parce qu'ils disséminent l'information. Et déjà, ce sont les ordinateurs qui calculent ce qu'ils peuvent en extraire. Mais une partie de ces activités vont pouvoir être remplacées par l'intelligence artificielle. Ce qui veut dire que des personnes ou une partie du travail des personnes va être aspirée par quelque chose qui va le faire mieux à leur place. Alors, ça ne veut pas dire...
Et plus rapidement.
Bien plus rapidement, en quelques secondes. Ce qui veut dire que ces personnes ne vont pas disparaître en tant que telles. Mais le problème, c'est que d'abord, leur... compétences cognitives vont être démultipliées, mais surtout que certains pourront leur dire, écoutez, puisque c'est un système, une machine qui fait en partie et mieux et plus rapidement ce que vous faisiez, on ne va peut-être pas vous payer autant qu'avant. Et donc, quand Goldman Sachs dit, et c'est un nombre qui est absolument...
C'est une étude qui est sortie, ça.
Qui vient de sortir, mais qui est absolument époustouflant, qui dit que aux États-Unis et en Europe, il y a à peu près 300 millions d'emplois qui vont disparaître sur une population globale de l'ordre de 700, peut-être 800 millions. Ça veut dire qu'on parle de toute une génération de population active qui va être impactée, pas du jour au lendemain, mais progressivement. Alors, une grande différence aussi, c'est que ce n'est pas comme la révolution industrielle qu'on a connue au 19e siècle quand on a inventé les machines, les premières machines. C'était par, on va dire, par petites touches. Ça s'est développé au rythme des gisements de fer, de houille, de vapeur, parce qu'il fallait industrialiser l'économie. Aujourd'hui, c'est tout partout du même, dans un coup. Donc en fait, parce qu'on est dans une économie qui est mondialisée et globalisée. Ce qui veut dire que le choc n'est pas anticipé. Les entreprises, bien sûr, vont prendre un certain temps pour s'adapter. Certaines, aujourd'hui, utilisent déjà l'intelligence artificielle pour optimiser leur processus. D'autres entreprises vont apparaître, mais les entreprises traditionnelles qui ne comprennent pas l'envergure des choses vont être fortement secouées avec peut-être et certainement des pertes d'emploi et de rentabilité. Donc, j'appelle ça une révolution. Et il y a tout un problème de formation, parce qu'on ne peut pas subir cette révolution de manière passive en se disant « c'est bien, c'est anecdotique, et en être de simples consommateurs, on doit entrer maintenant dans l'apprentissage proactif de l'intelligence artificielle. » Donc ça veut dire qu'il va falloir reformer des professeurs, gardiennes humanité primaire, que sais-je, et bien sûr enseignement supérieur, et qu'au sein des entreprises, on va aussi devoir former les personnes à ces changements. Prenez le cas des entreprises de conseil qui, en fait, ont un référentiel limité, qui appliquent des solutions, mais qui sont souvent d'ordre répétitif. Un jour, un système pourra sans doute mieux faire que ces entreprises de conseil ce qu'elles font. Je parle du contenu intellectuel, pas de la confiance humaine, pas du rapport qui est en fait l'intime. Voilà. Autre élément, c'est que on a dans nos sociétés toujours privilégié la responsabilité décisionnelle au travail physique. Et c'est ainsi que depuis 40 ans, le travail physique... Ça va du chauffeur Uber aux restaurateurs, aux personnes qui sont des manuels, sont en fait sous-payés par rapport aux personnes qui ont un contenu intellectuel dans leur métier. Eh bien, on va se rendre compte que ces métiers manuels sont indispensables et j'espère qu'ils vont être revalorisés. Peut-être qu'on va voir ce que j'appelle une lutte des classes qui va prendre une formulation différente et remettre l'humain, certains humains qui avaient été délaissés du système, au centre de la cosmographie professionnelle. Autre problème qui va se poser et qui est gigantesque, c'est la sécurité sociale. Alors aujourd'hui, elle est prélevée sur le travail, comme l'impôt essentiellement. Mais si à un moment la quantité de travail bouge, si la machine effectue une partie du travail, la machine va devoir être taxée, imposée, pour compléter ce que l'humain n'arrive plus à faire. Donc on a des défis gigantesques devant nous.
C'est dingue parce qu'il y a toujours un temps de latence et de retard pour qu'une école, un système scolaire s'adapte. Là aujourd'hui, on parle d'éducation aux médias sur il faut expliquer aux jeunes comment fonctionnent les réseaux sociaux. Je trouve qu'on a 15 ans de retard par rapport à ça. Mais donc là, devoir faire en sorte que les institutions, nos institutions s'adaptent, alors, sachant qu'elle est toujours en retard. Entre-temps, plein de choses seront déjà extrêmement avancées. J'essaie toujours de prendre des exemples concrets. Le métier de graphiste, c'est hallucinant. Les IA génératives d'images, où il suffit aujourd'hui de taper un texte, j'ai besoin d'un chat cosmonaute en train de faire sur une planche de surf. Testez, vous allez voir, qui te génère cette image-là. Alors pour l'instant, c'est dégueulasse. Il y en a quelques-uns qui se débrouillent vachement bien, ça devient de plus en plus précis. Mais c'est ça qui est assez étonnant, parce qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup. Je sais qu'il y a 2-3 ans, ça existait déjà. On calculait pas trop ça parce que l'image était moche, il y avait trop d'imperfections. Mais là, je me rends compte qu'à chaque fois que je tombe sur des nouveaux outils, qui à chaque fois sont bluffants, mais je discute avec des graphistes qui me disent « Oui, mais non, notre métier, notre cerveau, on repousse l'art toujours plus loin. » Mais nous sommes, quoi qu'il arrive, nous, en tant qu'êtres humains, je veux dire, la créativité n'existe pas. Ce n'est qu'un ensemble de remix, d'inspiration, dû à
notre ressenti.
Voilà. On grandit dans un contexte, on est un artiste, oui, bien sûr, on est soumis à voir des choses, à ressentir des choses, et donc naturellement, notre travail va s'inspirer volontairement ou involontairement de quelque chose de déjà préexistant. Moi, je pars toujours du principe de l'adage que tout est remixé. Mais donc, comme l'intelligence artificielle a accès à tout, a accès à toutes les informations, toutes les palettes de couleurs, toutes les palettes graphiques, d'un point de vue rétrospectif, et tout comme elle peut très bien dire, tiens, on peut retenter de mettre quelque chose à la mode, donc ça veut dire qu'indéniablement, ça nous amène vers une disparition des métiers artistiques aussi, en quelque sorte.
Probablement. Je crois que les métiers artistiques ne se rendent pas compte qu'ils vont devoir changer. C'est-à-dire que la personne qui va finalement émerger, la dernière personne qui va émerger du système, qui va peut-être y échapper, c'est l'homme qui est fou. C'est-à-dire qu'il y a un comportement complètement erratique. Encore que la machine peut déjà maintenant faire la liste de comportements erratiques. Donc, par exemple, si on demande à une machine « Donne-moi tous les comportements erratiques d'un joueur d'échecs », mais il va dire « Je joue les blancs, mais je commence à jouer les noirs ». Ou bien je renverse la table, ou je casse, ou je
brûle tout. Il est capable de casser les codes de manière étonnante.
Et de manière assez identique. Je pense que Picasso, qui est par exemple, ou les cubistes qui ont fait des choses extraordinaires, ou les impressionnistes, pourront être peut-être par copiage, mais réimaginés par l'intelligence artificielle. Mais je le prends dans le domaine simplement littéraire. J'arrive, moi, à transformer un texte en fonction du sentiment que je veux exprimer. Je veux un texte qui soit, on va dire, inquiétant, apaisant, interpellant, émotif, eh bien, le texte est modifié en fonction de ce que je lui donne comme instruction. Quand j'ai un texte maintenant et que je veux avoir une vision des titres, parce que parfois je dis un peu pour les titres à utiliser, eh bien, je demande sur base d'un texte à me sortir, à la machine, de me sortir 15 titres. Et souvent, ces titres sont interpellants, sont bien faits, sont innovateurs, je n'y avais pas pensé. Donc ça montre qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe maintenant. Et donc, comme vous disiez très justement, il faut absolument former les gens. On ne peut pas, comme pour les GAFA, se plaindre après 15 ans ou 20 ans d'activité que 10% des petits commerces ont disparu simplement parce qu'on n'a pas vu les choses qui arrivaient. Donc c'est maintenant que des hommes politiques, des femmes politiques doivent, avec beaucoup de proactivité, se projeter dans l'avenir, se faire conseiller et sortir d'un cadre convenu, parce que les hommes, les femmes, les hommes qui sont animés par des consensus flous et mous ne vont pas être capables d'appréhender cette réalité. Pour moi, c'est un choc majeur. Et les personnes qui aujourd'hui disent « ça ne me concerne pas, c'est pas pour moi, je suis trop âgé, je vais échapper à la vague », n'ont pas compris que tous les agrégats sociaux pourront se disloquer ou pourraient se disloquer et que les grands équilibres de protection sociale pourraient disparaître. Donc je crois que c'est vraiment très très important de comprendre. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est la finalité de tout ça. Et ça, c'est pas encore clair. Pourquoi tout ça? Qu'est-ce qu'on va créer? Du bonheur humain? Est-ce qu'on va créer des sociétés de loisirs? Certains le disent. D'où va venir la prospérité? D'où va venir le partage, la redistribution? Tout ça doit être débattu maintenant. Et je pense qu'au niveau européen, on doit vraiment se pencher quasiment en termes philosophiques sur l'aboutissement de tout ça. Parce que c'est bien de faire des constats, mais encore faut-il savoir quel est le projet de société qui peut s'adosser, qui peut s'aligner plus ou moins à l'intelligence artificielle.
Pour l'instant, ce qu'il faudrait faire, et tu peux me tutoyer Bruno, ne l'oublie pas, tu es sur limite, c'est de légiférer de telle manière en fait, à ce qu'elle ne rentre pas trop dans certains domaines. Je pense aller aux universités, par exemple. Aujourd'hui, je demande à ChatGPT, par exemple, de me faire une dissertation. Elle l'a fait, mais de manière exceptionnelle. Hein. Plus je lui donnais des informations sur lesquelles elle peut construire, développer. Mais à côté de ça, je pense qu'on est tous les deux d'accord que c'est au niveau européen et même national qu'il faut essayer de faire en sorte de contenir cet ogre qui peut tout de suite venir tout manger. Moi, je reviens toujours un petit peu à cet aspect artistique. Nous avons un monteur, nous avons une équipe de monteurs ici sur Limite. Et aujourd'hui, effectivement, des IA qui créent le montage. Ouais. On peut demander un montage style clip, hop, il reprend les images. Il y a eu un premier clip qui a été fait grâce à une IA. Plein de gens ont été assez subjugués. Et quand on parle de même l'élan artistique, et c'est ça qui est assez étonnant, c'est si on conjugue toutes ces IA. Donc, tu as bien sûr ChatGPT, c'est du traitement de texte. Et tu en as d'autres qui reprennent ma voix. Donc, aujourd'hui, il y a des IA qui analysent ma voix et qui sont capables, au-delà qu'on avait le deepfake dans le visage, qui est toujours omniprésent, qui est capable de synthétiser ma voix et de transposer ma voix dans le discours de quelqu'un d'autre. Donc, admettons demain,
avec un contenu qui sera inventé par la machine.
Oui, et il y a même des IA qui peuvent me générer. Donc, je suis malade, je suis en vacances, je prends un gars qui me ressemble à un tantinet, il parle à ma place, il pose des questions, et l'IA est capable de mettre mon visage, de mettre ma voix comme si c'était moi, et de façon crédible. C'est dangereux pour la désinformation, ça.
Ah, mais oui. Parce que le grand débat, ça va être de savoir distinguer le vrai du faux, évidemment. Les métiers de doubleur, par exemple, de films vont être changés. Les métiers de publiciste, dès le moment où on peut restituer une voix, qu'on peut la modifier, on peut tout imaginer. Mais donc, qu'est-ce qu'on doit apprendre?
Mais excuse-moi, mais si Poutine, il lui arrive quelque chose, on pourrait nous faire croire pendant 20-30 ans qu'il est encore en vie.
Bien sûr, on cloudera une image, bien sûr. Mais si on a quelques éléments de voix d'un Victor Hugo, c'est dans texte existe, ou des personnes décédées depuis longtemps, on peut très bien recréer des personnes et des raisonnements. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'avec une lecture complète de Victor Hugo et sa voix, on puisse l'entendre à l'Assemblée nationale française en train de parler, de faire un discours, mais en 2023 plutôt qu'au XIXe siècle. Mais donc, ça veut dire qu'il faut d'abord savoir quel est l'aboutissement de tout ça. Quel est le projet de société, les dangers, les opportunités qu'on peut en tirer. Mais surtout, on va devoir réapprendre à tout le monde, aux citoyens, le sens critique. Parce que dès le moment où on peut confondre le faux du vrai, il faut savoir de quoi on parle. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'un étudiant fasse une rédaction avec ChatGPT, qu'on appelle d'ailleurs CheatGPT, cheat veut dire tricher en anglais.
Mais Google le faisait avant aussi.
Voilà. Mais ce qui est important, c'est que quelqu'un qui produise un texte sur base d'impulsions qu'il a donné à la machine soit capable d'exprimer un jugement critique par rapport à ce que la machine a créé. Ça devient une autre couche de raisonnement. Bien sûr, une autre intelligence artificielle pourrait, ou même la première, pourrait critiquer ce qu'elle a même produit. Donc c'est un système où, en fait, finalement, il y aurait une course à l'échalote devant la dernière intelligence artificielle. Mais c'est là qu'on doit s'insérer. On doit avoir une acuité intellectuelle, un sens critique et un apprentissage à l'apprentissage qui devient très développé. Finalement, on en revient aux grandes leçons de Cicéron, hein, qui avait dit que l'humanisme, c'était en fait apprendre à apprendre. C'est ça qu'on va devoir faire. Mais donc, il y a quelque chose de très, très important qui se crée maintenant. Et il y a une structuration d'enseignement de la population avec, je répéterai tout le temps, la définition d'un projet de société. On ne peut pas être le simple consommateur de quelque chose qui, à notre insu, ou même de manière volontaire, va enlever une partie de ce que l'âme humaine a pu créer en nous-mêmes.
Mais l'âme humaine, elle est déjà un petit peu partie. Quand tu regardes, le système va vite. On en parlait dans notre précédente vidéo, hein, sur le néolibéralisme qui n'est pas compatible avec l'écologie. J'ai envie de repositionner ces intelligences artificielles dont lui-même Elon Musk a dit que c'était un danger. Donc j'aurais tendance à vouloir dire, faudrait bien l'écouter pour le coup. De retransposer ça par rapport à l'écologie et par rapport à notre réel besoin aujourd'hui. La plupart des personnes que je connais dans mon entourage et quand je regarde un petit peu les utilisateurs de ChatGPT, ils l'utilisent certains dans un but récréatif, d'autres pour leur travail. Mmh. Et je n'échappe pas à cette règle. Je l'ai testé pour mon travail et je me suis rendu compte que ça pouvait être, je ne l'ai pas appliqué, j'ai tenté, mais je me suis dit, ok, d'abord je dois avoir une discussion avec moi-même, si tu vois ce que je veux dire, pour savoir si ça rentre dans, parce que sur limite on a quand même des sujets importants dont on veut parler et on voudrait garder une sorte d'équité là-dedans. D'éthique, pardon, excuse-moi. Mais c'est le fait que ça rentre dans un paradigme de consommation et d'améliorer sa productivité au travail. Donc à partir du moment où tu commences à utiliser ChatGPT parce que ton travail, c'est de faire l'analyse des résultats sportifs et de donner un petit court message. Hop, alors salut, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me faire un petit truc à destination de la télévision? Lui, il a compris, il le fait. Et on est très content parce qu'en fait, c'est comme si une heure de temps, bah, ça s'est transformé en cinq minutes. Pour l'instant, ça existe dans un but de productivité. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? On va nous en demander plus alors? C'est sans doute ça qui est en train, c'est vers ça que ça se dirige plus ou moins.
Là, ce serait pas gênant. Parce que si on a payé la même chose pour un travail qui est démultiplié, pourquoi pas? Finalement, on fait plus maintenant pendant une heure qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Donc manifestement...
L'ordinateur a permis de faire beaucoup plus.
Bah, la digitalisation, la numérisation a permis est la source première d'augmentation de la productivité depuis 30 ans. Ça, c'est clair. Donc, on peut imaginer très bien qu'on fasse plus. Mais d'abord, il faut savoir pourquoi faire plus. Hein. Alors, on peut imaginer que ce soit uniquement dans un but de complément d'information, d'enrichissement. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'on veut comme projet d'humanité là derrière. Si quelqu'un me dit « j'utilise l'intelligence artificielle pour résoudre les problèmes du monde » et c'est sur ça sur quoi on va travailler, ça c'est un projet intéressant. Parce que ça veut dire qu'on va utiliser la machine pour nous aider à peut-être dépasser nos carcans de pensée et à remettre en cause nos façons de réagir et d'interagir surtout. Mais on peut très bien imaginer que dans un premier temps, ce ne soit pas ça qui se passe. C'est-à-dire que dans des entreprises qui veulent rester traditionnelles, on dit à quelqu'un « voilà, ben en fait, comme tu fais en 5 minutes ce que tu faisais en une heure, c'est-à-dire que tu fais 12 fois plus vite ce que tu faisais, on va remplacer 12 travailleurs par un seul qui va travailler pendant une heure. » Et que donc, ça crée un choc de chômage.
Oui, parce qu'on ne peut pas lui donner 12 fois plus de travail.
Donc ça veut dire que les entreprises elles-mêmes vont devoir se repenser. Une entreprise qui ne voudra pas épouser ce changement en se disant vers où elle va aller, et de nouveau, on parle de vision, de projet, d'anticipation, de futurologie, est une entreprise qui est destinée, à mon avis, à se racrapoter et finalement à mourir après avoir perdu son personnel. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Et on peut comprendre la crainte qui a animé les travailleurs agricoles quand tout d'un coup le machinisme est arrivé au 19e siècle, quand ils se sont rendus compte qu'en fait, on pouvait produire plus rapidement que ce que les cycles de la nature permettaient de faire. On s'est rendu compte qu'on pouvait produire de manière linéaire dans le temps, alors qu'en fait, l'économie était circulaire et basée sur les saisons auparavant. Et l'homme qui avait compris tout ça, et qui avait d'ailleurs une pénétration intellectuelle stupéfiante, c'est Karl Marx, qui avait dit « la science, le travail de l'ouvrier va devenir chétif devant l'ingéniosité de la science. » Il avait parfaitement compris qu'à un moment, la machine, et à l'époque c'était extrêmement élémentaire, allait dépasser ce qu'un individu était capable de produire.
C'est le cas.
Et c'est le cas. Et que donc, à un moment, il y aurait une paupérisation, une précarisation du travail devant la machine, d'où sa réaction de dire qu'il fallait absolument donner aux travailleurs la vraie rémunération de sa valeur ajoutée et pas la diminuer au profit de la machine. Et en fait, ça pose un débat de société très simple, qui est de nouveau la lutte des classes entre le capital et le travail. Parce que le capitaliste, l'homme qui possède l'entreprise, va dire « mais c'est moi, capitaliste, qui donne un abonnement, non pas simplement à ChatGPT, qui coûte quelques euros par mois, mais à des systèmes beaucoup plus sophistiqués. Donc toi, travailleur, en fait, tu augmentes ta productivité grâce à moi. Donc je ne vais pas te payer tes gains de productivité, puisque c'est moi qui les crée. » Le travailleur va dire « mais si je n'ai pas de pouvoir d'achat, je ne serai pas capable d'acheter les produits que l'entreprise produit. » Et donc, je pense qu'on va vraiment revenir très rapidement à un débat marxiste. Très, très rapidement, qui est en fait un débat de la machine, pas contre l'homme, mais de la machine qui doit dialoguer avec l'homme sous une forme plus élaborée qu'à 150 ans, mais qui est, à mon avis, extrêmement vivace. Et j'ai toujours eu le sentiment, mais depuis des années, qu'un jour, on arriverait à ce débat de la lutte des classes, et je crois qu'on va y arriver, on va y arriver prochainement.
C'est l'histoire de beaucoup de films de science-fiction. Hein,
oui, mais oui, bien sûr, mais ça pose des problèmes d'équilibre sociaux. Et moi, maintenant, je vais prendre mon bâton de pèlerin et voir quelques ministres en Belgique, parce que je veux m'assurer que c'est que mon avis parmi d'autres, il y a des milliers d'avis, et mon avis ne vaut pas plus que celui de quelqu'un d'autre, mais soit écouté, parce que je veux que cette conscientisation, maintenant, percole dans la société, pour que tout le monde soit conscient des enjeux et des mutations.
Aujourd'hui, ce qui se passe beaucoup, c'est une génération qui appréhende et qui gère très bien ses outils. Bon, j'en fais partie parce que j'ai toujours baigné dans l'informatique et forcément, tu as des chefs d'entreprise et des personnes qui ont un gros pouvoir sur leurs travailleurs qui ne sont pas conscients des capacités. Ils entendent parler de ChatGPT, mais ils se rendent pas compte des myriades d'intelligence artificielle qui leur permettraient demain, s'ils ont besoin d'un logo, d'avoir leur logo pile poil avec l'idée qu'ils ont, de virer tout le département marketing parce qu'ils n'ont pas cette connaissance. Et donc, effectivement, il y a une sorte de conflit de génération là derrière où des jeunes se disent « Ah bah tiens, bah grâce à ça, moi, je vais pouvoir me faire un maximum d'oseille parce que je vais pouvoir maximiser mon temps avec des gens qui n'y connaissent pas grand-chose et à qui je peux vendre des services que c'est même pas moi qui le fais. » Et c'est ce qui est en train de se faire. Mais effectivement, il y a un moment donné où des gens vont se former. Et à partir du moment où il y a ces entrepreneurs ou ces nouveaux entrepreneurs qui arrivent et qui ont pleinement conscience, mais c'est même pas qu'il va y avoir des gens qui ne vont plus être engagés, il va y avoir que des freelances. On va être qu'avec des personnes qui vont tout seul utiliser un outil pour le vendre à d'autres, si tu vois ce que je veux dire.
Oui, on peut très bien imaginer que le salariat soit, à part dans certains domaines, disparaisse et que chacun devienne le porteur de sa compétence.
Après, on utilise tous le même outil, de toute manière.
Voilà, hein. On n'est pas obligé d'avoir l'intelligence artificielle pour arriver à ce constat. On peut très bien y arriver sans intelligence artificielle. Mais c'est intéressant ce que tu racontes, c'est sur le conflit de génération. Effectivement, je pense que les personnes qui ont mon âge, dans la soixantaine ou un peu moins, en fait, ont vécu de manière extrêmement linéaire. Bien sûr, on a épousé le progrès des téléphones mobiles, d'Internet, de la numérisation.
Tu sais faire un TikTok ?
Comment ?
Tu sais faire un TikTok ?
Non, je ne sais pas faire un TikTok.
Voilà, ok.
Voilà, je sais pas faire un TikTok. Et donc, on a vu ces changements, finalement, mais de manière assez anodine, de manière assez étrangère. On en a profité, mais on ne s'est pas rendu compte de ce qui se passait dans le fond de l'économie. Et aujourd'hui, les jeunes vont prendre une revanche extraordinaire, non pas seulement ceux qui sont capables de surfer sur cette vague, mais ceux qui, auparavant, en étaient exclus. Oui. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un est capable de manipuler l'intelligence artificielle et de produire quelque chose de la même qualité que quelqu'un qui a fait des années d'études, cette personne va être revalorisée. C'est pour ça que je pense qu'il y aura de multiples basculements et j'espère qu'ils seront mis en œuvre dans un but socialement utile. C'est-à-dire, comme je le disais, que les tâches manuelles, indispensables, non remplaçables par un exosquelette et par le sentiment que ces personnes peuvent transporter, soient revalorisées. Mais peut-être qu'au sein des personnes qui ne sont pas des manuels, il y aura un rééquilibrage qui va faire en sorte que les personnes qui, à un moment de leur vie, n'ont pas pu étudier, pas voulu étudier, n'ont pas été capables, sont en fait aidées par l'intelligence artificielle pour développer une intelligence que, humainement, auquel ils n'auraient pas accès. Et donc, il va se passer des changements multiples et qu'en fait, il faut souhaiter, parce que ça veut dire que la société va être confrontée à des défis ensemble.
Avec des choix.
Des fragmentations, des fractures, des étonnements, des sidérations. Et je crois que chacun, on va devoir faire notre examen de conscience. Moi, je fais mon examen de conscience. Je me dis, mais quelle est la partie de mon travail aujourd'hui qui peut être faite par l'intelligence artificielle? Quand je suis vraiment un peu déprimé, j'arrive à 70%. Et pourtant, j'ai la faiblesse de penser que j'écris bien, que je suis quelqu'un qui a découvert un style d'écriture depuis maintenant une trentaine d'années, mais je me rends compte qu'en termes de contenu, je me suis limité moi-même, de manière un peu répétitive et déductive, à ce qu'en fait était ma propre expérience. Donc je crée au rythme de mes découvertes. Mais si maintenant j'ai un apport de découverte qui dépasse largement ce que humainement je suis capable de lire ou d'entendre.
Et d'intégrer.
Ben, ça veut dire, et d'intégrer effectivement, ben, ça veut dire que je suis capable de démultiplier. Mais c'est pas moi qui démultiplie. C'est la machine qui m'aide à le faire. Je ne suis jamais qu'un vecteur d'écriture ou un nom. Donc on va devoir même voir quelle est notre propre utilité.
C'est dingue parce que tu vois qu'il y a une différence notable entre les générations. Je suis retombé, et d'ailleurs je pense faire de l'expérience chez vous aussi, sur des lettres de mon arrière-grand-mère et de ma grand-mère. À 8 ans, j'étais choqué, hein, une écriture parfaite, aucune faute d'orthographe, maîtrise du participe passé, du subjonctif, de tout ce que tu veux, tout est extrêmement parfait, et au-delà de ça, c'est même le dessin des cartes est d'une précision, tout ça sans ordinateur. Donc forcément, on a bien compris que l'ordinateur nous a rendu paresseux, c'est notre disque dur de sauvegarde. Sur le côté, on a notre petit Google qui est là, je ne vais pas retenir une information, je n'ai pas besoin de me parfaire dans l'exigence de quelque chose, puisque de toute façon, l'information est là-bas. Je dois réparer mon système électrique, je ne vais pas apprendre comment le faire, j'ai Google et un électricien qui m'explique, alors bonjour, voilà comment ça fonctionne. Oui. Donc déjà, c'est un stockage.
Oui.
Mais alors du coup, à partir du moment où ça a forgé la réflexion et la manière de réfléchir d'une génération aujourd'hui, hein, qu'on peut estimer ceux qui sont nés dans les années 90-90, hein, pour les Français qui nous regardent, jusqu'à dépasser 2000, qui fonctionne plus en compartiment. Mmh. Ok, j'ai besoin de cette information là maintenant, parce que c'est mon quotidien. Eh ben, je vais la travailler maintenant, mais si jamais... Et c'est dingue, c'est comme si ça ouvrait les perspectives de pouvoir faire absolument ce qu'on voulait de sa vie. Mais effectivement, c'est une génération qui est forgée de cette façon-là, que demain tu la balances dans la jungle, y compris toi et moi, hein. On est complètement largués. Pire encore, tu nous ramènes au temps de nos grands-parents, je pense qu'il va y avoir... ça va beaucoup secouer. Mais alors cette génération qui commence avec l'intelligence artificielle, et admettons qu'il n'est pas régulé ou... tout est fait comme ça, c'est quoi? On se déshumanise, on n'est plus humain, on devient simplement en fait une coquille vide qui n'a plus besoin d'utiliser son cerveau pour vivre, on ne devient plus que des consommateurs en fait, on n'est plus que des corps qui font activer leur dopamine au gré d'un film Marvel qui sort, d'un jeu vidéo qui sort, et d'émotions de sexe, etc. On devient plus que...
Oui, ça ce serait le scénario catastrophe, c'est-à-dire qu'on soit tous des consommateurs absolus d'images, de films qui seront faits à la demande en fonction des iterata. et que finalement on vive de manière quasiment inerte avec des antidépresseurs. De l'alcool,
de la drogue, Bruno.
C'est-à-dire qu'effectivement, et donc on ne sait pas très bien d'où la richesse va venir, on ne sait pas très bien comment on va répartir, comment on va créer des solidarités, comment on va interagir, mais finalement on sera des êtres isolés. Et c'est un scénario qui n'est pas exclu. D'ailleurs, quand il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, j'avais rencontré un des gourous de Internet, du début d'Internet en France, il m'avait dit qu'il y aurait deux sortes de gens. Des gens qui vivraient des vraies vies, c'est-à-dire des vrais mariages, des vrais voyages, des vrais déplacements, des vrais ressentis, et puis des personnes qui en fait vivraient pas, qui vivraient leur vie à travers un écran avec des images, des odeurs qui seraient générées par la machine et qui feraient presque l'amour de manière personnelle avec des images plutôt que de le faire de manière
réelle. Ça existe déjà.
Hein. Ça existe déjà.
Voilà. Ça marche bien.
Ou bien on peut se dire que on rentre dans un monde nouveau de sciences différentes et qu'on est tous des vecteurs de quelque chose qu'on veut apporter à l'autre. Et que ce soit en fait un échange permanent qui soit enrichi par ce que l'intelligence artificielle aura pu nous apporter. Et moi j'espère qu'on va vers ça, c'est-à-dire qu'on va créer de nouvelles communautés, mais ce qui est certain c'est que la structure de la société, les vieux contre les jeunes, les créatifs contre les non-créatifs, les non-éduqués contre les personnes qui ont la chance d'avoir un enseignement, va être bouleversée. Et qu'on va sans doute avoir une éprouvette aux composants bizarres, avec des personnes qui auront, effectivement, qui seront peut-être tombées dans la résignation, mais d'autres encore plus nombreux qui vont se développer et imaginer d'autres façons d'agencer leur vie, d'agencer la société. Parce que le progrès entraîne toujours des peurs. Quand on a développé les premières machines à vapeur et les trains, certains ont dit qu'on ne pourrait pas dépasser la vitesse de 30 ou de 40 à 60 à l'heure parce qu'on étoufferait devant la vitesse du vent. Bon, ça ne s'est pas passé. Et donc, on a cru qu'on ne pourrait pas faire voler quelque chose qui était plus lourd que l'air. Donc, que l'ordinateur allait voler tous nos emplois. Ce n'est pas vrai. On retrouve des bases stabilisées. Ici, ce sera plus difficile parce que c'est toute la partie cognitive des individus qui va être interpellée jusqu'au créateur, et peut-être même d'abord le créateur. Mais donc, on peut trouver d'autres choses. Et c'est ça, en fait, le projet de société auquel je faisais référence. On doit trouver exactement ce qu'on veut être. Et on ne peut pas être dans des sociétés qui, en 2040, se diront « on avait vu quelque chose, on n'a pas compris, on n'a pas interagi ». Ça demanderait d'immenses débats citoyens, par exemple. Et donc, on doit maintenant déjà reformuler, je le répète, hein, tout ce qui est fiscalité, répartition, sécurité sociale, en fonction de ces multiples projections de la société qu'on peut imaginer. Et en fait, on peut même utiliser l'intelligence artificielle pour imaginer ses futurs. Et donc avoir des scénarios qui nous permettent de s'y préparer.
C'est drôle parce que tu as dit un truc, on ne peut pas dire en 2040, 2050 qu'on n'a pas vu ce truc arriver. C'est un peu l'adage de l'être humain, de ne pas voir des trucs arriver, les limites planétaires, le changement climatique. On le voit bien arriver, mais on continue à aller droit devant. C'est pas un narratif qui a simplement à provoquer l'adhésion de tout le monde. Tu vois, cette vision d'une intelligence artificielle douée de conscience. Je me rappelle quand j'étais enfant, quand j'ai eu mon premier ordinateur sur lequel je posais des questions et qui me répondait, mais parce qu'il avait un code qui faisait que c'était des questions basiques. Bonjour, bonjour, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Ça s'arrêtait à ça. Mais j'étais tout content, en disant, oh, c'est incroyable, c'est comme dans les films. C'est pas inscrit en nous, en fait, qu'on se dit quoi qu'il arrive. On est juste en train de prendre une direction où l'humain a envie de créer une autre forme de vie, en quelque sorte.
Peut-être, mais alors ce serait une vie qui serait
nous amène loin,
sous anesthésie, sous chloroforme, qui serait une vie passive, complètement inerte, végétative.
Mais j'ai bien aimé ton idée, je rebondis là-dessus, de deux visions du monde. Une vision des gens qui vivent des choses, qui ressentent, qui ont décidé de voir, de ressentir, de se prendre dans les bras, et d'autres qui préfèrent jouer online à des kilomètres de distance et d'avoir tout autant de plaisir. C'est deux formes de plaisir qui sont très différentes. Sauf qu'il y en a une là-dedans, j'ai la sensation qu'elle nous rend abrutis, alors je suis devenu vieux, ça y est, hein, je suis devenu réac, j'ai l'impression qu'elle nous rend complètement abrutis, complètement amorphes, que si on ne l'a pas, on n'a plus aucun plaisir en regardant simplement un bourdon butiner quelque chose, je reviens vraiment avec un cliché. Et une qui nous rend totalement consommateurs, et donc forcément consommateurs compulsifs, juste à remplir ces hormones, cette sérotonine, cette dopamine, et l'activer le plus possible, qui fait qu'au final, on balance encore plus de gaz à effet de serre, on a encore plus d'empreintes écologiques parce qu'on veut consommer, consommer, consommer. Puis de l'autre, effectivement, c'est ces mondes éventuellement de résilience. T'es arrivé ici, t'as dit « Ah, t'as un jardin, tu m'as parlé du jardin. Bah, » c'est cool, hein, moi j'ai des potes, ils calculeraient pas le jardin, ils me diraient « Ah, oh, trop bien tes caméras, trop bien tes trucs, ah quoi, t'as pas de télévision, qu'est-ce qui se passe ?» Mais toi, t'as fixé le jardin. C'est quoi? C'est qu'à un moment donné, ça va se disloquer entre la technocratie qui va où on va y aller à fond, et de l'autre côté, naturellement, instinctivement, des gens qui veulent rester humains. Ben, c'est ça les manifestations de demain.
Oui, j'espère qu'on ne va pas arriver à ces dichotomies de la société.
C'est un peu ça.
Ce serait épouvantable. Parce que ça veut dire qu'on aurait on serait capable de catégoriser les personnes en fonction de leur adhésion à un comportement digital, d'intelligence artificielle, puis les autres qui veulent vivre une vie réelle. Ça, c'est le pire scénario qui avait été évoqué il y a une trentaine d'années. Moi, je pense que si on développe chez les personnes le sens critique, le sens du beau, le sens artistique, peut-être aidé d'ailleurs par cette intelligence artificielle, alors on recrée des communautés. Le pire serait une société de personnes complètement isolées, fragmentées, atomisées, qui soient de simples consommateurs jusqu'aux antidépresseurs.
On est dedans,
je crois pas qu'on soit là-dedans.
Tu crois pas qu'on est dedans là? Non,
je crois qu'il y a une propension pour les personnes qui veulent rentrer là-dedans à y être. Et c'est vrai que les gens vivent de plus en plus solitaires. Mais en même temps, il y a encore plus de joie à trouver des communautés, des fraternités, des sororités, à faire des couples, à faire se développer l'humanité. Et finalement, c'est ça qu'on doit garder à l'esprit, c'est que la machine n'est pas l'humain, c'est tout à fait différent. Et même si on est, aidé par la machine, mais mon Dieu, mais la réalité de la nature nous apprend que finalement, il y a des choses qui nous dépassent, que le cosmos nous dépasse, on n'a toujours pas très bien compris comment toute cette histoire s'agençait. Donc il faut rester dans l'émerveillement de l'enfant. Et c'est pour ça que je disais que le dernier qui sera atteint par l'intelligence artificielle sera le fou. La personne qui est complètement erratique, disruptive dans ses comportements, qui soit inclassifiable. Mais on sera à un moment peut-être attrapé par la modélisation. Donc j'espère qu'on ne va pas tomber là-dedans, mais ça veut dire que, de nouveau, il faut savoir quelles sont les valeurs que la société veut développer. Et si les valeurs, c'est la communauté, la société dans sa cohésion, le partage, la découverte du beau, l'apprentissage commun, alors on arrive à quelque chose qui dépasse simplement le repli individuel sur soi-même. C'est ça qu'on doit développer maintenant. Et pour ça, on ne doit pas faire appel à des économistes, mais à des philosophes, à des historiens qui expliqueront pourquoi des sociétés vont se régénérer et d'autres pas, à des juristes peut-être qui vont voir les choses un peu différemment, à des personnes qui seront des sociologues, des psychiatres, qui vont nous apprendre à dépasser cette espèce de carcan un tout petit peu étouffant dans lequel on pourrait tomber.
C'est incroyable, j'ai l'impression qu'on est vraiment arrivé à un carrefour écologique.
Complètement.
Un carrefour technocratique, un carrefour du capitalisme. On est arrivé à un moment. Et excuse-moi, mais c'est quand même... Alors peut-être c'est la perception qu'on a, et dans un système très anxiogène, j'ai plus la télévision pour ces raisons-là, mais que ce carrefour-là, ou alors il dérive vers des choses merveilleuses, comme il peut dériver vers une sale guerre, Bruno.
J'ai une intuition qui n'est étayée par rien du tout. Donc c'est simplement une perception tactile, épidermique, qui est que les grands excès du capitalisme se terminent par de la violence. Et que la violence est un des aboutissements d'un capitalisme effréné. D'ailleurs, on n'a pas eu deux guerres mondiales en Europe, on en a eu une. Seulement, la paix a été mal gérée et conduite à la seconde. Mais cette première guerre mondiale a coïncidé avec une phase d'exacerbation du capitalisme. C'est en fait le machinisme qui avait été poussé à l'extrême, avec une déflation technologique. Et donc, peut-être qu'on est à un point maintenant de basculement, que je n'espère pas violent, mais qui est en train de nous confronter aux excès biologique, écologique, que sais-je, physiologique, psychiatrique, d'un système qui est en train de nous éreinter. Et donc c'est pour ça qu'il faudra éduquer les personnes à vivre avec cette intelligence artificielle, au risque de voir qu'elle nous domine. Mais effectivement, il est possible que nos sociétés vivent des tressaillements absolument épouvantables, tout à fait. Et que finalement, cette idée d'avoir un marché gigantesque qui allait rendre tout le monde heureux avec cette mondialisation qui promettait des lendemains qui chantent, ne soit pas du tout à la hauteur des réalités auxquelles on va faire face. Voilà. Donc il y aura des forces de rappel.
L'éducation, éduquer
bien sûr
un maximum les gens, transformer les institutions, déjà alerter, de dire attention, il faut qu'il y ait un débat public, il faut qu'il y ait un débat philosophique autour de ces questions-là. C'est drôle, c'est que je parlais de ça avec ma fille. J'aime bien ramener les conversations à des moments très, 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 très normaux. Comme ça, ma fille a 10 ans. Et on a tous les deux été sur ChatGPT, et comme ma fille parle en néerlandais, on passait d'une langue à une autre. Et à un moment donné, elle rigolait en disant « Ah, oh, ben c'est juste un ordinateur qui me fait des réponses comme ça, qui réfléchit, mais ben, de toute façon, il ne vit pas. » Je dis « Oui, mais il pourrait vivre. » Je dis « Mais non. » Elle me dit « Mais non, ça ne vivra pas. Ça ne peut pas vivre. » elle me dit c'est pas quelque chose qui va saigner quand tu vas mettre un couteau dans l'ordinateur, l'ordinateur va faire ah j'ai mal et tout, donc au final bof quoi. Et j'ai trouvé ça beau, et effectivement ça nous ramène au fait que il y a sans doute des gens qui retrouvent cette sensation humaine, cette sensation du vivant, de s'émerveiller devant les belles choses de la vie, et qui vont être protégés parfois aussi d'un système qui pourrait foncer dans cette direction-là. Donc, éduquer, en parler un maximum avec les politiciens, en maximum autour de nous.
Dans l'apaisement, dans l'écoute, dans le bien-être, dans la tranquillité, mais avec la force de la vision. C'est ça qui est important. Et donc, nos sociétés, maintenant, doivent être réfléchies dans le projet qu'on veut pour les 20, 30, 50 prochaines années.
Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à cette belle conversation autour
de... Moi, je pense qu'il faut... Oui, je voudrais ajouter quelque chose. Je pense qu'on doit tous avoir maintenant un certain degré de révolte. On ne peut pas être, comme tu disais, des consommateurs passifs. On doit être irrité par rapport à un aboutissement qui serait justement l'antidépresseur et un écran devant nous. Il faut qu'on soit des forces de rappel. Et toutes les personnes qui ont cette capacité de partager, de susciter le débat... par la parole, par l'image, par le son, par le chant, que sais-je, doivent absolument le faire. Parce que ce sont ces personnes-là qui seront les dernières consciences d'une évolution qui risquerait d'être happée par une machine si on n'est pas réactif.
Je te relance très très vite sur un truc. C'est bien beau tout ça. J'avais discuté avec une personne qui s'appelle Vincent Mignereau, dont la vidéo est disponible juste ici, où à un moment donné, je suis arrivé sur une idée. Est-ce que la société n'est pas en train de devenir une société cyberpunk, qui est énormément de gens entassés dans des villes, qui font des boulots minables que l'intelligence artificielle ne peut pas faire en quelque sorte, devoir faire du gros nettoyage, etc., etc., bref, et qui passe son temps effectivement avec un casque de réalité virtuelle, réalité augmentée ou tout ce que tu veux, bref, qui est connecté à une forme de matrice, hein, un autre monde dans lequel il s'évanouit, il s'épanouit, où il y a des injections de dopamine, tout ce que tu veux, qui lui permettent juste de planer. Et tout au-dessus, en fait, on a des grosses entreprises, des Elon Musk, des Jeff Bezos, etc., etc. Moi, je voudrais t'amener juste sur un truc en guise de conclusion. Est-ce que nous ne sommes pas en train, justement, de vivre cette cyberpunkisation de la société? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'État, pression sur les citoyens, et que les gens aujourd'hui, j'ai la sensation, oui, t'en as qui se disent « Ah, je vais profiter, je vais prendre l'air, il y a un éveil écologique qui se fait, c'est sûr et certain. » Mais qu'en même temps, t'en as qui ont peur, qui ont une peur de changer de boulot, une peur de ne pas pouvoir payer leur fin de mois, que de prendre des risques et de changer de vie, fait qu'ils ont peur d'avoir les huissiers qui toquent à la porte, ils ont peur qu'on leur enlève, qu'on leur retire, qu'ils perdent leurs privilèges, et qu'au final, au moment où les choses basculent, parce que tu vas comprendre vers où je t'amène, hein, que ce capitalisme exacerbé peut créer des tensions et un retour de la violence, qu'au moment où ça peut se produire dans différents endroits du monde, qu'on va tous avoir un premier réflexe. Et au lieu de s'ouvrir au monde, se refermer tous ensemble, les uns sur les autres, en se disant « Ok, là, il faut que je protège le plus possible ce que j'ai, tu vois. » Et qu'on rentre dans on arrive dans un capitalisme de dictature où c'est un petit 1%, mais qui a réussi à absolument contrôler tous les flux, tous les systèmes de sécurité, les systèmes politiques, puisqu'aujourd'hui, les GAFAM ont une puissance politique assez incroyable. Et ça y est, on a mis la main mise dans un cadre de changement climatique. Hein, faut pas oublier. Oui, c'est-à-dire de conserver ses privilèges. Quoi.
Ce serait vraiment un avenir dystopique. Finalement, c'est quelques-uns qui dirigent l'humanité. Peut-être que c'est grâce à Elon Musk, d'ailleurs, hein, puisqu'il veut s'enfuir sur Mars. Mais bon, il y a eu beaucoup de tentatives dictatoriales, parce que c'est ça dont on parle, et qui finalement sont renversées par des révolutions. Mais le danger est réel. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui se réfèrent à George Orwell, 1984. Mais il y a un livre que je recommande de lire, et qui a été publié uniquement dans les années 70, donc quasiment plus de 70 ans après son décès. C'est un livre de Jules Verne, qui est d'ailleurs un peu inachevé, qui s'appelle « Paris au XXe siècle ». Et donc cet homme imagine que les sciences exactes s'imposent au détriment des sciences humaines. Donc on fait disparaître les livres, tout ce qui est le référentiel de sciences humaines, et c'est une société de consommation, de productivisme, avec la vision bien sûr qu'on avait au début du 20e, fin du 19e. Et en fait, finalement, le héros, je ne vais pas dire la fin parce qu'il ne faut pas divulgâcher un livre, ne termine pas bien. Et donc, je me suis toujours dit que le jour où les sciences humaines seraient dépassées par les sciences exactes, ce serait une catastrophe. Donc, ça veut dire qu'on peut imaginer cet avenir épouvantable de domination dictatoriale, avec un peu comme dans le film Élysée, hein, où il y a cette espèce de société merveilleuse qui utilise les laissés pour compte pour les tâches élémentaires. Mais on vit sur une même planète, et donc il y aura effectivement un réveil qui sera écologique, qui sera peut-être révolutionnaire, peut-être politique. Nos sociétés ont été dépolitisées, peut-être qu'elles vont se repolitiser assez rapidement. Et moi, j'espère tout ça. J'espère qu'on soit dans un bouillonnement, je le disais, de réflexion, d'interpellation permanente, parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas, en tant qu'humain doté de conscience, se laisser dériver au fil de l'eau, au fil des jours, vers une société qui soit celle que tu décris maintenant.
Bruno, merci à toi d'être venu sur cette chaîne.
Merci beaucoup.
C'est toujours un plaisir. T'es le bienvenu quand tu veux. Je rappelle son livre, allez le checker. D'ailleurs, le lien est en description. Une brûlante inquiétude, voilà. Histoire d'être encore un peu plus dans l'éco-anxiété et dans la techno-anxiété. Je sais pas si ça se dit, mais on pourrait imaginer. Tu reviens quand tu veux sur la chaîne. Je crois qu'on aura merci. Encore beaucoup de choses à se raconter. C'est tous les 6 mois un peu qu'on se voit comme ça. Et ben c'est cool.
Merci
allez,
en tout cas.
Porte-toi bien.
Merci.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous rappelle qu'il est également disponible sur YouTube en vidéo. Et nous sommes aussi présents sur les autres réseaux sociaux. Retrouvez nos articles et notre actualité sur le site limite.media. Et si Limite existe, c'est intégralement grâce à vous. Vous pouvez nous aider en envoyant un don sur Tipeee ou encore PayPal.me. Mais le plus important, si vous aimez notre travail, c'est de le partager tout autour de vous. Merci et à bientôt sur Limite.
Limite. Quelle est ta définition du réel ?